On va commencer l'échange à trois voix. Donc déjà, j'espère que cette matinée et ce temps cet après-midi vous ont permis de découvrir peut-être une autre vision de l'Église, en particulier sur l'amour humain. J'ai relevé plusieurs phrases là qui m'ont particulièrement marquée dans la journée. J'en ai trouvé 10, mais je ne vais pas vous les dire maintenant. Du coup, j'en ai sélectionné 3. J'ai trouvé que c'était tellement fort et dense, et nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc des petites phrases clés, parce que ce n'est pas moi qui vais refaire un résumé de ce qui a été vu ce matin. Notre âme est incarnée dans un corps, muscler sa volonté pour mieux choisir. L'amitié n'est pas le stade inférieur de l'amour. Voilà, des petites phrases que j'ai sélectionnées comme ça au hasard. Maintenant, on va vous donner la parole à travers les jeunes qui ont rassemblé vos questions. J'ai entendu parler de 3 questions générales pour ce matin. Les questions du sujet de cet après-midi semblent arriver maintenant. Est-ce qu'il peut y avoir une première question, s'il vous plaît?
Bon, je vais faire d'ici. Hein. Donc, la première question, elle est sur le comment. Donc, vous en avez parlé un petit peu cet après-midi. Mais... Donc, en gros, c'est quel langage et quels moyens peuvent être mis à disposition pour évoquer les thèmes de l'éducation relationnelle, affective et sexuelle. Alors, dans la question du comment, il y a plusieurs sous-critères. Hein. L'âge, la mixité ou non, la fréquence des rencontres éventuelles, la question du groupe et de l'individu, etc. etc.
Qui veut, Monseigneur? Est-ce que vous voulez... On commence toujours par le clergé.
Moi, je vais juste dire un petit élément pour peut-être les laisser répondre surtout. Je crois que c'est important déjà de... Et moi, c'est ce qui m'a frappé en entendant les deux intervenants aujourd'hui, qui rejoignent aussi beaucoup de mes réflexions, de mes préoccupations, de bien comprendre ce que ça veut dire qu'éduquer. Éduquer, hein, en français, en latin, pardon, c'est « et » ex ducere, donc conduire hors d'eux, donc de l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le comment, vous dites bien que vous n'allez pas proposer des recettes ou des comportements stéréotypés qui resteraient finalement à l'extérieur du jeune dont vous avez la responsabilité éducative. Mais tout consiste à lui faire découvrir que ce vers quoi vous voulez les conduire est déjà en eux, en germe, dans leur corps, dans leur cœur, dans leur intelligence, hein, dans leurs appétits, comme on a dit tout à l'heure, on a parlé d'appétit concupiscible, appétit irascible, on pourrait ajouter aussi. Hein, toutes les potentialités de leur être sont inclinées vers, et ils ne le savent pas suffisamment. Et ils ne savent pas non plus que ces inclinations, elles sont profondément unifiées, parce que, comme je vous disais ce matin, la personne est une. Alors l'éducateur, c'est celui qui rend la personne qui l'éduque consciente de ce qui est en elle comme potentialité, comme inclination, pour pouvoir l'aider à sortir d'eux. Et puis le deuxième mot qui me vient à l'esprit aussi, qui n'est pas non plus indifférent à ça, c'est le mot « autorité ». L'éducateur, on dit toujours qu'il exerce une certaine autorité, et on connaît aujourd'hui une grande crise d'autorité. Hein. Et vous savez que ça vient aussi d'un vieux mot latin qui est auctare, qui a donné ensuite augere, qui veut dire augmenter. Mais vous avez aussi dans le mot auctare le mot auctor, auteur, source. Vous voyez ? Celui qui exerce l'autorité, ce n'est pas celui qui va écraser l'autre de principes et de fardeaux qui sont impossibles à porter, parce qu'il serait justement des normes trop extérieures, ce qu'on appelle un idéal. Mais un idéal, c'est quelque chose qui est dans l'idée, mais qui ne part pas du concret, et qui finalement est absolument inatteignable, même si on s'efforce de coller un peu à l'idéal. Non, celui qui a l'autorité, c'est celui qui augmente l'autre, donc qui l'aide à grandir, on a dit faire grandir dans l'amour, et à partir de ce qui est en source en lui, vous voyez ? Qui permet, et c'est la même idée que tout à l'heure, hein, d'aider l'autre à retrouver en lui les sources de son agir et de sa liberté, qui sont des instincts, des passions, des inclinations, même des pulsions, mais pour que petit à petit, ces sources qui sont quelquefois un peu impétueuses en nous, hein, et on voit bien dans notre croissance, à cause en plus de du désordre du péché, ben tout ça a besoin d'être canalisé. Mais c'est à nous de le canaliser peu à peu à travers ce qu'on a dit, les vertus et tout un chemin de croissance. Hein, c'est ça qui est très important. Voyez, comment permettre aux jeunes de découvrir en lui ces sources qui sont la matière de ses vertus qu'il va acquérir, des dispositions acquises, hein, qui seront dans ses mains et qui vont lui permettre de rejoindre des finalités qui sont celles de la personne. Voyez, et en particulier quand on parle de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, hein, comment voir que c'est la personne qui est sexuée, hein, c'est la personne tout entière qui est sexuée, et comment on va acquérir cette vertu de la chasteté dont on a parlé, qui est la vertu par excellence de la sexualité, par cette espèce de maîtrise intérieure du cœur et de l'esprit, de cette inclination sexuelle, pour lui faire servir les finalités de la personne, bien au-delà du plaisir, de l'utilisation de l'autre, etc. Voyez, voilà, je voulais juste dire ça, pour dire que, surtout, il faut se dire que la personne éduquée, elle a tout en elle-même. Après, le comment, à vous de jouer. Hein.
Ouais. Moi, je dirais qu'il y a des critères, quand même. Des critères éducatifs, par exemple, la question de la progression, voilà. La question du projet, la question de la structuration et du sens. Paul l'a exprimé très bien ce matin sur la question de l'horizon d'attente. Hein. C'est une condition absolument essentielle pour qu'une éducation puisse s'enraciner et porter du fruit. Voilà. Donc la question de la progressivité, la question de la structuration, et puis, et là je le dirai avec Jacques Arène, le fait de mettre en réseau des moyens et des personnes qui convergent toutes dans un sens unique, c'est la croissance des jeunes qui sont accompagnés. Donc ça veut dire un travail avec l'ensemble de ceux qui sont auprès des jeunes, que ce soit des animateurs, des parents donc, des plus grands avec votre projet de PLVTT. Là, vous allez avoir des grands jeunes au contact des collégiens. Ça pourrait être intéressant de travailler cette question avec eux, par exemple. La question de l'âge, de la mixité, c'est une question que toutes les pédagogies qui ont été développées, dont certaines vous seront proposées tout à l'heure, ont prise en charge. Et beaucoup, en fonction des âges, beaucoup d'outils pédagogiques proposent à des instants spécifiques que le groupe se sépare, quand le groupe est mixte, que le groupe se sépare avec les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Mais il est bon aussi qu'à un certain moment, clé et pertinent, le groupe filles et garçons entendent ensemble la même chose, et notamment les questions qui peuvent se poser aux uns et aux autres. Il y a notamment à l'âge adolescent une vraie découverte du questionnement des jeunes de l'autre sexe. La question du groupe et des individus, il y a une originalité dont on a peu parlé aujourd'hui, qui est le terrain pastoral que beaucoup d'entre vous connaissent, notamment ceux qui sont avec des jeunes adultes, qu'ils soient étudiants ou jeunes actifs. C'est le fait que c'est une question extrêmement prégnante dans l'accompagnement. Et donc là, forcément, la question de l'écoute et de la capacité à accompagner le questionnement ou le reproche que se formulent les jeunes dans un accompagnement à plus long terme est tout à fait important et demande des compétences spécifiques qui s'apprennent et qui se reprennent en groupe. Et ça ne se vit pas du tout de la même manière, ce n'est pas du tout les mêmes questions quand on a 12 ans et quand on en a 22 ou 23.
Vous disiez quand, à quel âge, à quelle fréquence, à quel âge, tout le temps, à tout âge. Et ne pas attendre d'avoir toutes les réponses pour commencer à parler. Vous n'attendez pas d'avoir toute la nourriture que votre enfant pourra manger dans sa vie pour commencer à le nourrir. Et on demande chaque jour humblement à notre Père de nous donner notre pain de ce jour et pas celui de demain. Voilà, donc vraiment privilégier le petit pas. Je ne sais plus quel saint qui disait que le but de sa vie, c'était que quand quelqu'un vient à lui, il reparte meilleur que ce qui est arrivé. Voilà, il ne cherchait pas à faire forcément à changer tout le monde, mais ceux qui viennent à moi, ceux qui viennent avec leurs questions d'aujourd'hui, qu'ils partent avec des billes pour eux.
Merci. Est-ce que vous avez une autre question ?
Alors maintenant, une question qui est plus focalisée sur le qui. Donc, en fonction des rôles et de leur distribution, donc le rôle des parents, de l'église, de l'école, et où s'arrête le rôle de chacun. Et mieux vaut-il que cela soit une personne extérieure qui évoque ces sujets ?
Monseigneur.
On va changer,
ouais. On va changer l'ordre, alors.
Je pense qu'on n'est pas dans une répartition en termes de terrain de compétence. C'est-à-dire que la compétence des parents ne s'arrête pas à la porte de la maison, la compétence de l'église ne s'arrête pas à la porte de l'église ou de la sacristie, la compétence de l'école ne s'arrête pas à la porte de l'école, mais ce sont des lieux qui, mis en système, participent chacun à sa place et avec une spécificité et son originalité à éduquer des jeunes, à les rendre aptes à vivre ensemble dans un projet de société qui soit capable voilà, de s'occuper des petits et des faibles, qui soit capable de faire des choix, de s'engager pour les autres et d'entretenir avec Dieu une relation vivante dans la vie sacramentelle et dans la prière. Donc la question de la répartition des rôles, elle ne se joue pas en termes de champ de compétences, mais bien en termes de dialogue entre les deux, de l'importance de pouvoir soutenir, par exemple, la parentalité, de l'importance aussi de renvoyer aux autorités de ces différents lieux et de ne pas les discréditer. Encore une fois, ça c'est Jacques Arène qui dit que lorsque un lieu discrédite un autre, c'est l'ensemble des acteurs des deux lieux qui perdent en autorité et en légitimité. Donc on n'est pas là pour réformer ce que les autres font mal, on est là pour porter l'évangile au cœur de ce qui est vécu et que l'évangile n'est qu'une bonne nouvelle et rien d'autre, et ce n'est qu'une personne qui vient pour nous sauver, et il faut la laisser faire, il faut laisser la grâce agir, il faut la laisser passer cette personne, et il faut la laisser passer devant nous. Voilà. Donc je ne crois pas que, en tout cas moi je me sens ni autorisée ni légitime à dire l'autorité des parents s'arrête là, et après ça ne les concerne plus, l'autorité de l'école s'arrête là, et ensuite ça ne les concerne plus, l'autorité de l'église s'arrête là. Non, je ne poserai pas les choses sous cet angle-là. Et la question du tiers, il est bon de temps en temps qu'une parole soit donnée par un autre membre de la famille que les parents, mais parce qu'elle vient renforcer ce que disent et expérimentent les parents, il est bon que de temps en temps une personne extérieure au groupe scout puisse venir apporter un élément précis d'éducation ou d'enseignement aux jeunes scouts, parce que ça renforce l'autorité de l'ensemble et que ça ne fait pas vivre dans un groupe fermé, etc. Donc la question du tiers ne peut pas être, en tout cas, ne peut pas se vivre en termes de décharge. Il vaut mieux que quelqu'un d'autre s'en charge. Donc je me décharge complètement de ma responsabilité sur cet autre, fût-il expert, ce qui me dédouane ensuite, moi, d'accompagner la dimension éducative.
Si vous avez un corps, a priori, vous pouvez témoigner de la théologie du corps. Et je crois que ça concerne tout le monde dans cette salle. Il n'y a pas de cerveau qui se balade d'esprit ambulant. Donc quelque part, c'est voilà, si un jeune vient vers toi, c'est sans doute ton prochain, quoi. Alors est-ce qu'on passe son chemin ou est-ce qu'on...
Ouais. Moi, je dirais, juste pour confirmer ce qui a été dit avant moi, mais j'irais d'abord, il faut... C'est un principe éducatif, ça, d'être le plus possible parvenu là où on veut conduire les autres. Et donc c'est sûr qui, à des moments différents de la vie, ça peut être les parents, ça va être un éducateur, un professeur, ça peut être un prêtre, ça peut être une personne qui est en relation éducative, le tout dans une grande cohésion, c'est sûr qu'il ne faut pas dire des choses différentes les uns des autres. Mais que ce soit l'un ou l'autre, il faut faire ce que l'on dit le plus possible, voyez. Il faut être crédible. Hein, un adulte qui prétend... avoir une éducation, une action éducative dans le domaine de l'affectivité, de la sexualité, bah, il faut que lui-même il soit bien engagé dans ce chemin qui conduit vers une maturité, avec une unité de vie, vers une unité de vie, vers une véritable harmonie, hein, que ce soit des adultes qui soient parvenus quand même à une certaine unité de vie. Voilà. Parce qu'on prêche plus par l'exemple que par les paroles que l'on prononce, hein, même si c'est aussi beaucoup de dialogue, donc beaucoup de paroles échangées. Mais c'est aussi l'exemple. Il faut que l'adulte inspire la confiance. Et à ce moment-là, tout est gagné s'il inspire la confiance. Il entraîne par son exemple et par la manière dont il le vit. Voyez, quand un jeune vit la chasteté au milieu des autres jeunes, pas comme une espèce de d'inhibition ou de castration, comme le monde a l'impression de nous faire croire que ce qu'est la chasteté, mais quand il le vit de manière parfaitement épanouie, eh ben, il a un impact sur les autres et il permet aux autres de s'élever aussi et de voir la beauté qu'il y a à essayer de vivre dans la chasteté. Entre parenthèses, je crois beaucoup à cette éducation des uns par les autres aussi. Et vous savez qu'il y a des mouvements aujourd'hui aux États-Unis, moi je l'ai vu aussi en Afrique, dans des diocèses d'Afrique, où il y a des jeunes qui font un engagement public, alors évidemment moyennant un accompagnement humain et spirituel, à vivre dans la chasteté donc parfaite, c'est-à-dire la continence parfaite, jusqu'au mariage. Et ben, c'est fou ce que ça peut avoir d'impact pour élever les autres qui ont beaucoup de mal, comme beaucoup évidemment, à le vivre, parce que c'est un combat.
Merci. Et ça me fait penser à la rencontre de Paul avec Christopher West. Tu disais ce matin, je suis allée à une conférence et voilà, c'est aussi une autre forme de témoignage d'un adulte, en tout cas extérieur au cercle familial habituel. Une autre question.
Alors moi, c'est une question concernant, donc en tant qu'acteur de la pastorale des jeunes, comment se former soi-même donc pour aborder ces questions, quels seraient les moyens? Et concernant le témoignage de Paul ce matin, faut-il partir de son propre vécu pour donner des bases et pour parler aux jeunes?
Alors Paul, tu veux peut-être...
Moi, j'en ai pas d'autres. Alors, faut-il se former soi-même? Oui, c'est-à-dire... J'imagine que pour votre propre vie, ça doit être intéressant de savoir, tiens, pourquoi est-ce que l'Église dit ça, quel sens ça, est-ce que c'est juste, si c'est pas juste, j'ai pas envie de le suivre. Donc, mais en général, ce que l'Église, il y a des chances que ce soit juste. Quand je disais tout à l'heure, si un jeune vient vers toi, c'est sans doute ton prochain. La formation, pour moi, n'est pas forcément une grande formation pour parler, mais plutôt une formation pour questionner, pour poser des questions. Accompagner, c'est beaucoup poser des questions, c'est très peu donner des réponses, en fait. C'est souvent dire aux jeunes, et toi, t'en penses quoi? Ton cœur te dit quoi? Et ça, tu juges ça de comment? Qu'est-ce qui te parle dans l'expérience de tes voisins, de tes camarades? Et pour poser des questions, il n'y a pas besoin d'énormément de formation, quoi.
Il n'empêche qu'on voit bien que le souci que vous avez eu de vous former.
Oui.
Donc je pense que c'est pas mal non plus que d'indiquer quelque chose. C'est aussi d'ordre cognitif, oui. Ou pas, mais à partir du moment où c'est un questionnement qui... est d'abord venu dans notre vie concrète, notre propre croissance. Mais après, il faut avoir des mots pour dire ce qu'on a découvert soi-même et pour aider l'autre aussi à découvrir en lui ce qui se passe et ses chemins de croissance. Quoi. Mais bon, il faut se taper les 129 catéchèses de Jean-Paul II ou utiliser un livre qui les présente bien, suivre quelques sessions de formation. Enfin bon, c'est tout à fait utile.
En apéritif... Amour et responsabilité, oui, de Carole Wojtyla, donc, oui, le même, mais exprimé de manière beaucoup plus accessible entre guillemets que la théologie du corps, voilà, et très orienté sur la chasteté, le regard, la honte, la pudeur. Qu'est-ce que c'est que toutes ces choses-là? Et c'est hyper accessible.
Peut-être que le point en fait qui achoppe un peu, c'est le fait que sur cette question, on perçoit, on a cette intuition qu'on est forcément concerné. Et donc, vous disiez, est-ce qu'il faut forcément partir de son expérience? En fait, on ne peut pas faire autrement sur cette question. Et c'est peut-être là-dessus qu'on a besoin d'être formé pour s'autoriser une forme de témoignage. Il ne s'agit pas du tout de déballer. Il ne s'agit pas du tout de rendre visible quelque chose qui est parfaitement intime, mais au contraire, il s'agit de proposer, il y a une phrase que j'aime bien, c'est donner, ce que je donne à voir propose à croire. Voilà, ce que disait tout à l'heure Monseigneur Hayet, c'est-à-dire le fait de... autant que faire se peut, dans la limite de nos moyens et de notre fragilité, manifester qu'on croit fondamentalement en ce que l'on dit et dans le chemin que l'on propose de suivre, et ce chemin est une personne, et manifester que nous nous sommes nous-mêmes engagés sur ce chemin de manière résolue, mais pas forcément de manière facile et évidente. Les jeunes ont besoin de deux types de modèles pour se construire, un modèle projectif et un modèle identificatoire, une figure dans laquelle se projeter et une figure dans laquelle pouvoir s'identifier. Eh bien, en fonction des acteurs qui entourent les jeunes, voilà, il est bon de vérifier que ces deux figures peuvent leur être proposées de manière régulière pour les aider à se construire en adulte.
En tout cas, moi, j'ajouterais que c'est très important d'avoir confiance en ce monde de l'Église, voyez. Vous avez un trésor dans ce monde de l'Église sur ces questions de l'amour, de la sexualité, de l'amour et du mariage. Parce que d'abord, c'est d'abord ressourcé dans le plan de Dieu sur l'homme et la femme, l'amour et le mariage tel qu'il est révélé par Dieu lui-même, hein, en particulier dans la Sainte Écriture, que ce soit la Genèse, mais aussi dans l'Évangile, dans le Christ. Comme dit Gaudium et Spes au numéro 22, le mystère du Verbe incarné éclaire le mystère de l'homme. Et le Christ, dans son humanité parfaite, nous révèle l'homme à lui-même. Voyez. Donc c'est très important, ça. Cette amitié avec le Christ est aussi très éducative de ce que c'est que l'homme et de ce que c'est que notre humanité. Hein, et l'enseignement de l'Église, pour ça, est vraiment une source de formation. Des documents qui sont... Bon, on a parlé, on a parlé d'amour et responsabilité de Karol Wojtyła, on a parlé de ses catéchèses sur l'amour humain, vous avez des encycliques aussi, comme Humanae Vitae de Paul VI, dont les catéchèses d'ailleurs se présentent comme un commentaire pastoral, hein, comme l'a dit Jean-Paul de lui-même. Vous avez l'exhortation apostolique Familiaris Consortio sur les tâches de la famille chrétienne dans le monde d'aujourd'hui. Vous avez un très beau développement sur l'amour humain dans la première encyclique de Benoît XVI, Dieu est amour, hein, des numéros 3 au numéro 14, je crois, où il parle de ces deux catégories grecques de l'amour, Eros et Agapé, qui se retrouvent aussi bien en Dieu et dans l'homme qui est à l'image de Dieu, hein. Et toute la nouveauté de la révélation biblique sur l'amour humain, c'est très concret tout ça. Pourquoi cet enseignement est très concret? Parce qu'il se ressource dans l'acte créateur de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, donc il nous connaît bien. Il sait comment nous sommes faits et il sait pourquoi il nous a créés. Et il sait aussi nous dire comment les accidents de parcours qui s'appellent le péché et cette difficulté dans laquelle nous sommes nous-mêmes parfois enlisés par rapport à cette réalité-là ne sont pas le dernier mot de la réalité de l'amour humain. Voyez, il y a quelque chose qui est plus profond en nous que notre péché, plus profond en nous que les désordres de nos passions qui quelquefois nous pèsent et pèsent sur les jeunes dont vous avez la responsabilité éducative. C'est justement ce dessein de Dieu qui est inscrit en nous et qui est un peu défiguré, mais qui est quand même encore entier et intact en nous. Voyez, et c'est ça qu'il faut retrouver. C'est magnifique. Hein, donc il y a un chemin de croissance qui... Mais c'est en ce moment de l'Église. Et puis aussi, le texte Gaudium et Spes, tout le premier chapitre sur la dignité de la personne humaine. Relisez ça, là. Et vous verrez ça aussi dans le catéchisme catholique, dans la partie 3, là. Là, je crois que c'est dans la première section, sur l'homme à l'image de Dieu, la finalité de la vie humaine, qui est la béatitude, les actes humains, les vertus. C'est très, très bien dit aussi dans le catéchisme de l'Église catholique, dans la troisième partie du catéchisme.
Est-ce qu'il y a encore une question ? Rapidement. Merci. Alors,
c'est un thème délicat à aborder pour des jeunes. Comment éviter que cela ne soit pris à la décision, à la dérision? Et à l'inverse, y a-t-il des termes qu'il faut éviter, comme par exemple le terme morale, obligation, et d'autres termes qu'il vaut mieux réintégrer comme vertu?
Vertu.
Moi, je crois fondamentalement que ce n'est pas un thème. Alors, si c'est un thème, forcément, ça va poser des questions. Mais si ce n'est pas un thème, ça va lever ces questions-là. Donc ça doit bien irriguer l'ensemble de la proposition, et la réflexion qui est la vôtre se traduira par l'ensemble des propositions que vous allez faire, pas uniquement la séance de questions qui adviendra un vendredi soir avec des troisièmes. Ça, c'est une chose. Ensuite, la question des mots, ils ont la charge qu'on veut bien leur donner. Et le mot moral n'est pas un gros mot. Et il n'est pas question d'aller avec un certain courant qui voudrait reléguer ce terme et son sens, parce qu'un mot, c'est un sens, dans un cagibi parce qu'il serait désuet, inapproprié ou ringard, disqualifié. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout à fait le recharger du sens qui est le sien, en disant voilà, voilà ce que veut dire ce mot, voilà ce qu'il permet, et voilà ce qu'il outille. On peut toujours utiliser le terme éthique, mais quand on est d'accord pour dire que c'est le même mot, il faut pas les prendre non plus pour des andouilles. Et le mot moral, c'est un mot qui a un sens qui est tout à fait juste et qu'il faut employer à bon escient. La question des interdits, si la morale c'est des interdits, alors n'utilisez pas le mot moral, mais n'utilisez pas non plus les interdits. La morale, c'est un lieu éducatif à la liberté, au discernement. Et le discernement, c'est d'abord des moyens qu'on expérimente graduellement dans des lieux spécifiques qui nous sont proposés à vivre et qui équipent, qui outillent pour la vie. Tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'il y a un vrai processus éducatif dans l'ensemble. Encore une fois, si c'est le thème du vendredi soir au premier trimestre avec les troisièmes, oui, là, vous allez entendre des ricanements et ce sera naturel, en fait. Tout simplement.
Paul, éventuellement.
Je crois que c'est important d'utiliser les mots qui correspondent aux choses. Et qui ont une définition. J'ai parlé tout à l'heure de masturbation, c'est pas un gros mot. La réalité est peut-être moins belle, mais le mot désigne une réalité. Voilà, se planquer derrière les mots, c'est déjà montrer quoi. Se planquer un mot, c'est déjà montrer qu'il y a une réalité qui est qu'on a des difficultés à aborder. Je me souviens qu'il y a une intervention où un jeune sur un petit papier a cru bon de poser la question qu'est-ce que l'Église pense de la fellation. Je pense que c'était à peu près pour provoquer, voilà. Mais quand on commence, le jeune, quand on commence par dire qu'il n'y a pas de partie indigne du corps humain, et qu'ensuite on explique pour tout un tas de raisons, voilà. La réponse en l'orient large. Mais voilà, on montre déjà qu'en en fait, il n'y a pas de problème avec la question. Quoi. Et donc, les ricanements, en fait, ils s'arrêtent vite.
Oui, puis il faut repartir aussi des raisons pour lesquelles ces mots, tu parlais de morale, vertu, etc., sont devenus, peuvent être tournés en dérision. Pourquoi ? Parce qu'au côté de morale, on va dire obligation interdit. À côté de vertu, on va dire habitude stéréotypée, convention mondaine. Mais dès qu'on aborde les mots de face, et puis qu'on reste serein, et qu'on essaie d'exprimer « Est-ce que tu veux être heureux, toi ?»« Ben oui, je veux être heureux. » Mais la morale, c'est l'art d'être heureux. Si tu lis Aristote, tu verras que la morale, c'est dans l'éthique à Nicomaque, c'est la question du bonheur qui est la première question morale, pas la question de l'obligation. Quand tu regardes ce que Jésus nous dit pour la manière de vivre conformément au plan de Dieu, à la volonté de Dieu, le premier mot qu'il emploie, c'est le mot « heureux ». Et donc, dès lors qu'on a dit ça, on va aborder aussi des questions qui sont au cœur même de la personne en face de nous. Et on va l'obliger à venir dans le concret de sa vie. Tu veux être heureux, toi ? Et où est-ce que tu mets le bonheur ? Et tu détournes la conversation, mais après, tu dis « c'est ça la morale ». Mais il y a des exigences. Et puis, tu vas trouver en toi-même des potentialités. La vertu, c'est une force, ça veut dire force, la vertu. Mais il ne faut pas s'inquiéter non plus que le monde tourne en dérision ces choses-là. Vous savez, du temps du Christ, on a tourné en dérision l'idéal de chasteté qu'il a proposé à ses disciples quand il a dit « il y en a qui se font eunuques ». Pourquoi il a employé ce mot ? Parce que, sous forme de dérision, en son temps, on disait que celui qui n'était pas marié ou celui qui était chaste était un eunuque. Ça voulait tout dire. Mais Jésus a même utilisé le terme en disant, mais il y en a qui sont uniques par la main des hommes, ou qui sont nés comme ça, il y en a qui sont uniques pour le royaume des cieux. Il faut réutiliser les mots que les gens tournent en dérision pour leur faire trouver le secret. Et il faut le faire de manière tout à fait décomplexée.
Alors l'heure tourne, donc on va être obligé d'arrêter les questions là. En revanche, celles qui restent en suspens seront vues en équipe de pastorale des jeunes et on fera de telle sorte que vous ayez des réponses sur le site de la pastorale. Alors, vous savez que maintenant, vous allez pouvoir rejoindre des partenaires. Alors, j'aurais quand même envie de vous poser une question. C'est que vous nous dites, certes, qu'on doit se former. Donc, parmi les partenaires, il y a des partenaires chez lesquels on peut se former. Mais est-ce que vous pouvez rapidement nous dire à partir de quel moment on doit laisser la main aux autres et, en tant qu'animateur, se dire, ben voilà, c'est plus de mon ressort. Peut-être que quelqu'un est là pour m'aider.
Je pense que ça dépend du projet dans lequel on fait intervenir ses partenaires. Voilà, les partenaires que vous allez découvrir, ils ont développé des pédagogies spécifiques. Et ces pédagogies, elles sont pertinentes, mais elles n'ont pas toutes les mêmes qualités. Donc voilà, en fonction de l'intention qui est la vôtre, en fonction du groupe aussi dans lequel vous intervenez, bien telle proposition sera plus pertinente qu'une autre. Et à ce moment-là, elle trouvera sa place à l'intérieur d'une proposition plus globale, d'éducation plus globale. Donc c'est cette intervention, ces partenariats-là sont les bienvenus parce qu'ils remplissent une fonction, ils ont une utilité à l'intérieur d'un projet éducatif et non pas comme un en-soi.